Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Indonésie fait pression pour la ratification de la résolution lors d'une session extraordinaire de l'ONU. Armand Atanasir affirme que les doubles standards à Gaza nuisent au système multilatéral. Président Prabowo invite les hommes d'affaires japonais à ouvrir des universités en Indonésie. Amnesty International accuse Israël d'avoir commis un génocide dans la bande de Gaza. Experts affirment que l'Indonésie a un meilleur potentiel nucléaire que le Japon. Professeur de l'UGM reçoit la plus haute distinction académique du gouvernement français. Voici le journal complet. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Armand Atanasir, dans un discours devant la session d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies, ESS-10, qui a discuté des actions illégales d'Israël dans les territoires palestiniens mercredi 4 décembre 2024 à New York, aux États-Unis, a invité pays aux membres de l'ONU pour qu'ils soutiennent une résolution encourageant un cessez-le-feu à Gaza et un soutien politique à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA. Cette session d'urgence a eu lieu à la suite de l'utilisation du droit de veto de l'un des États membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sur le projet de résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza le 20 novembre 2024. Armand Atanasir a souligné l'importance du soutien de la communauté mondiale pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien.
Amidst the systematic failure and paralysis of the Security Council, the General Assembly must continue to give weight to its role as the voice of global conscience.
Au milieu de l'échec systématique et de la paralysie du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale doit continuer à céder le pas à son rôle de voix de la conscience mondiale. À cet égard, nous exhortons tous les États membres à soutenir et à voter en faveur du projet de résolution présenté lors de la session extraordinaire. Il est temps de se lever au-dessous de la politique et d'être du côté de la justice et de l'humanité. En outre, Armand Atanasir a également invité les pays à commencer à prendre des mesures concrètes en acquittant les expéditions d'armes vers Israël, mise en œuvre efficace des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des décisions de la Cour internationale de justice et amélioration des conditions humanitaires à Gaza à travers de l'aide internationale. L'Indonésie regrette également les mesures prises par Israël pour continuer à entraver l'entrée de l'aide internationale à Gaza et les efforts croissants visant à discréditer l'UNRWA. Selon Armand Atanasir, L'Indonésie ressent également une perte pour la mort de 333 travailleurs humanitaires, dont 249 employés de l'UNRWA, tout en aidant les habitants de Gaza. Selon lui, l'UNRWA est devenu le dernier espoir pour la population de Gaza. De plus, l'UNRWA est devenu le sauveur de plus de 2 millions de réfugiés palestiniens. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré que les doubles standards affichés à Gaza avaient porté atteinte au système multilatéral mondial. Lors de la session d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies, ESS-10, mercredi 4 décembre 2024 à New York, États-Unis, Arman Atanasir a déclaré que depuis le début de la guerre contre la Palestine, 8 projets de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à mettre fin à la violence à Gaza ont échoué en raison de l'utilisation du droit de veto. Sur les 4 résolutions adoptées avec succès par le Conseil de sécurité de l'ONU, aucune n'a été mise en œuvre de manière efficace. En outre, divers textes juridiques de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale exigeant des comptes à la fin des crimes contre l'humanité n'ont pas été respectés. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Nasir, cette double norme semble donner à Israël le feu vert pour poursuivre la violence contre le peuple palestinien et nuire à l'ordre juridique international.
Double standards has given Israel the license to kill. Double standard is unraveling the multilateral system.
Le double standard a donné à Israël le droit de tuer. Le double standard détruit le système multilatéral. Nombreux sont ceux qui affirment aujourd'hui que nous entrons dans l'ère de l'effondrement de l'État de droit international, l'effondrement de l'ordre international. L'ordre même conçu par les pays puissants qui ne s'engagent plus à le maintenir. Arman Atanasir a également invité les pays à commencer à prendre des mesures concrètes en arrêtant les expéditions d'armes vers Israël, en mettant en œuvre efficacement les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et les décisions de la Cour internationale et en améliorant les conditions humanitaires à Gaza à travers l'aide internationale. Selon lui, l'Indonésie estime qu'une double solution est la seule voie vers une paix durable entre la Palestine et Israël. Le président Prabowo Subianto a invité la délégation d'affaires japonaise à participer à l'ouverture de l'université japonaise Indonésie lors de la visite de la délégation de l'Association Japon-Indonésie, Japinda, au palais présidentiel de Jakarta, jeudi 5 décembre. C'est ce qu'a transmis le ministre de l'Investissement et des questions navales en tant que chef du conseil de coordination des investissements, Rosan Perkasa Ruslani, après avoir accompagné le président lors de la réunion. Cité par Antara, Rosan a déclaré que l'Indonésie avait ouvert la possibilité à plusieurs universités des États-Unis et d'Angleterre d'ouvrir des campus en Indonésie l'année prochaine. Il a déclaré que l'Indonésie espère que le Japon pourra participer et selon lui, la réponse de la délégation japonaise a été très positive. Amnesty International a accusé jeudi 5 décembre Israël d'avoir commis un génocide dans la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza en Palestine au cours des 14 derniers mois. Rapporté par The Guardian, cette organisation britannique de défense des droits de l'homme a expliqué que selon le droit international, les actions d'Israël répondaient aux éléments d'un génocide. Le rapport d'Amnesty International examine divers événements survenus à Gaza entre octobre 2023 et juillet 2024. Le contenu est qu'Israël aurait commis des actes interdits en vertu de la Convention sur le génocide de 1948. La secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré que ses conclusions devraient constituer un avertissement pour toutes les parties qu'Israël est en train de commettre un génocide et que cela doit cesser maintenant. L'Amnesty International a appelé l'ONU à faire respecter le cessez-le-feu et à imposer des sanctions aux responsables israéliens et du Hamas. En dehors de cela, l'agence appelle également à juger le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Auparavant, la Cour pénale internationale CPI avait émis des mandats d'arrêt contre Oudou le 22 novembre. Le professeur Lim Peng Hong, la diaspora indonésienne, entend également l'expert de l'énergie nucléaire à l'Université de la ville de Tokyo, TCU, au Japon, a déclaré qu'actuellement, l'Indonésie avait un meilleur potentiel de développement de l'énergie nucléaire que le Japon. Il a transmis en marge de la commission de précieux au ABC 2024 et de la lecture commémorative à Jakarta jeudi 5 décembre, cité par Antara. Lim, qui a donné une conférence publique lors de l'événement, a admis qu'actuellement, le Japon avait des difficultés à recruter des travailleurs dans le secteur nucléaire. Il a déclaré que des pays du monde entier, y compris le Japon, développent actuellement des réacteurs nucléaires de nouvelle génération, plus sûrs que les générations précédentes. Lim a souligné que des pays comme l'Indonésie ont encore suffisamment de temps pour rattraper le retard sur l'énergie nucléaire en général. Pour cette raison, il voit la nécessité d'une collaboration intersectorielle, tant gouvernementale que privée, pour créer une centrale nucléaire. Professeur en littérature et études de genre de la Faculté des sciences culturelles de l'Université Gadjah Mada, UGM, le professeur Venus Udasmoko a reçu la plus haute distinction académique par les académiques du gouvernement français. La remise de diplôme honorifique a eu lieu mercredi 4 décembre au bâtiment central de l'UGM, résidence de Sleman, région spéciale de Yogyakarta. Dans sa déclaration officielle de jeudi 5 décembre, Wenning a été considéré comme ayant produit de nombreuses études dans tous les secteurs et disciplines de la sphère des humanités sociales au cours de ses 30 années de service en tant qu'universitaire dans le domaine de la littérature française. Wenning espère pouvoir apporter une meilleure contribution aux études françaises qui, selon elle, ont constitué un point d'ancrage solide dans le façonnement de la civilisation mondiale. Par ailleurs, l'ambassadeur de France en Indonésie dans l'ASEAN et au Timor-Leste, Fabien Penoni, a déclaré que les travaux de Wenning méritaient la plus haute distinction académique française. Les palmes académiques décernées pour la première fois en 1808 sont une récompense décernée à ceux qui sont considérés comme ayant apporté une contribution majeure à l'avancement du monde académique en France et à l'étude du français. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission des commentaires d'aujourd'hui intitulée « Président sud-coréen Yoon Suk-yeol est sur le point d'être destitué ». Avec moi, Audrey. Chers auditeurs, les partis d'opposition sud-coréens ont soumis une motion visant à destituer le président Yoon Suk-yeol suite à la déclaration d'urgence militaire qu'il a annoncée mardi dernier, 3 décembre. Le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, ainsi que 5 autres partis d'opposition mineurs ont soumis une motion visant à destituer le président Yoon, arguant que la déclaration de la loi martiale par Yoon constituait une violation de la Constitution et d'autres lois. Le Parti démocrate a déclaré jeudi qu'il ferait pression pour que soit votée dès samedi 7 décembre une motion de destitution contre le président Yoon Suk-yeol. Yoon a déclaré la loi martiale en citant les actions anti-étatiques de l'opposition. Cependant, la loi martiale n'a duré que 6 heures après qu'elle ait été rejetée par 190 membres du Parlement parce qu'elle était considérée comme violant la Constitution et la loi sud-coréenne. Par ailleurs, selon le bureau du président sud-coréen, la mise en œuvre de la loi martiale mardi soir était justifiée et dans les limites de la Constitution. Ils ont nié que la mise en œuvre de la loi martiale ait perturbé l'accès des députés au Parlement. Le président Yoon Suk-yeol, du Parti du pouvoir populaire, est un ancien procureur conservateur qui a été élu en 2022 avec une très faible marge de voix sur son adversaire Lee Jae-myung du Parti démocrate. Mais depuis lors, sa popularité a commencé à décliner avec une note positive d'un peu plus de 10% dans un contexte de grève des médecins et d'opposition politique persistante, y compris de la part de son propre parti du pouvoir populaire. La motion de destitution de Yoon a été rapportée à la séance plénière de l'Assemblée nationale mercredi matin. Selon la loi sud-coréenne, une motion de destitution doit être soumise au vote dans les 72 heures suivant son signalement. Une majorité des 2/3 des législateurs est nécessaire pour adopter une proposition de destitution. Cela signifie que l'opposition a besoin du soutien d'au moins 8 députés du Parti du pouvoir populaire au pouvoir. D'un autre côté, le chef du Parti du pouvoir du peuple, Han Dong-hoon, a promis de mobiliser les efforts pour bloquer l'adoption de la proposition. Si la proposition de destitution est adoptée, le président Yoon sera suspendu dans l'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle. Si le juge était d'accord, Yoon serait destitué et de nouvelles élections devraient avoir lieu dans les 60 jours. On espère que la résolution de la crise politique en Corée du Sud trouvera bientôt un point positif. En tant que l'un des pays possédant la plus grande puissance économique au monde, la stabilité dans ce pays est nécessaire afin qu'elle n'ait pas d'impact sur l'économie régionale et mondiale. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 6 décembre 1917. La Finlande a déclaré son indépendance. De 1809 jusqu'à 1917, la Finlande était une région autonome de l'Empire russe appelée Grand Duché de Finlande. La Révolution russe de 1917 a renversé l'Empire russe, suscitant le désir d'indépendance de la Finlande. Le 2 décembre 1917, les bolcheviks russes déterminèrent seuls leur sort du peuple russe, conduisant le Parlement finlandais à rédiger une déclaration d'indépendance finlandaise qui a été élu le 6 décembre 1917. Le gouvernement soviétique russe reconnut l'indépendance de la Finlande le 4 janvier 1918. Le 6 décembre est célébré comme la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Canada. Cette journée est un moment pour se souvenir des femmes qui ont été victimes de violences au cours de leur vie. Cette journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Canada vise également à créer un monde meilleur en s'opposant aux comportements violents. Citant par National Today, le Parlement canadien a institué cette journée en 1991 pour commémorer le massacre de 1989 à Polytechnique Montréal, anciennement connu sous le nom l'École Polytechnique de Montréal. Le 6 décembre 2018, les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem est une ville internationalement reconnue comme faisant partie d'Israël et de la Palestine. Cependant, le 6 décembre 2017, Donald Trump, alors président des États-Unis, a annoncé que son pays reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est pour cette raison que Trump a transféré l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Cette décision a été contestée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 14 de ces 15 pays membres ont condamné l'action avant que les États-Unis y opposent leur veto. Un certain nombre de pays ont ensuite également transféré leur ambassade à Jérusalem, comme le Guatemala, le Kosovo, le Honduras, le Paraguay et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Tak tahu.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « Le gouvernement indonésien ouvre un potentiel commercial dans divers secteurs avec des entreprises canadiennes ». Le ministre coordonnateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto, a déclaré que son parti avait discuté de diverses opportunités commerciales dans divers secteurs stratégiques, allant des secteurs de l'énergie, des produits pharmaceutiques, à l'alimentation et aux boissons avec des entreprises canadiennes. La discussion a eu lieu lors d'une réunion avec la délégation commerciale canadienne, qui est membre du Conseil d'affaires Canada-ASEAN, CABC, au bureau du ministère de coordination de l'économie à Jakarta, cité par Antara, mardi 3 décembre. Rencontré après une discussion avec le CABC, le ministre Erlangga a expliqué que dans le secteur de l'alimentation et des boissons, la société PepsiCo se prépare à inaugurer une nouvelle usine en Indonésie. Il a déclaré que l'entreprise avait investi environ 200 millions de dollars américains et inaugurerait bientôt une nouvelle usine de collation en Indonésie. La rencontre avec la délégation d'entreprises canadiennes faisait également suite à des entretiens précédents avec le président Prabowo Subianto au Palais d'État qui visait à renforcer la coopération bilatérale entre l'Indonésie et le Canada. Lors de la réunion, la délégation des entreprises canadiennes était dirigée par Wayne Farmer, président du CABC, et assisté neuf représentants d'entreprises canadiennes, entre autres Sun Life Financial, CG Wellington Inc., TSEC Inc., Natural Resources Canada, Concordia University, Atkins Realis et d'autres grandes entreprises canadiennes. Farmer a souligné l'orientation du secteur privé canadien qui souhaite collaborer intensivement avec l'Indonésie dans le secteur de l'énergie propre, y compris l'énergie nucléaire en tant que centrale électrique, la sécurité alimentaire et l'agriculture, ainsi que le commerce électronique, e-commerce, et l'intelligence artificielle, IA. Dans le secteur des énergies propres, le CABC s'est déclaré prêt à contribuer à accélérer la transition énergétique en Indonésie. Le Canada offre une collaboration pour le développement des énergies renouvelables et l'utilisation de l'énergie nucléaire comme production d'électricité. Selon Farmer, son parti possède une vaste expérience dans la gestion de l'énergie nucléaire et est heureux de pouvoir s'associer à l'Indonésie pour accroître la capacité de gestion de la sécurité de l'énergie nucléaire et opérationnaliser le nucléaire en tant que centrale électrique. Le CABC a également déclaré qu'il était prêt à soutenir l'ASEAN dans l'utilisation de l'énergie nucléaire dans le cadre des Falcon Zone pour atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Apakah kau sadari akulah yang kau sakiti? Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolong aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel avec moi, Audrey. Cette fois, je vais vous présenter le culinaire Bao Prapi de Sulawesi occidental. Chers amis, lors d'une visite culinaire dans l'ouest de Sulawesi, essayez de savourer les délices culinaires typiques de Polewali Mandar, l'un des districts de l'ouest de Sulawesi. On y trouve une variété de délices culinaires délicieux, appelez-le Bao Prapi. En mandar, bau signifie poisson et perapi signifie cuit ou bouilli. Ce plat culinaire est à base de poisson à une sauce jaune et un goût aigre, épicé et savoureux. Chers amis, cet aliment est célèbre car son ingrédient principal est le poisson peperek. C'est généralement du maquereau ou du thon, qui est mélangé à diverses épices typiques telles que le galanga, le gingembre, le curcuma, le poivre et le piment rouge. Outre les épices, dans la cuisine du Bao Prapi, la population locale possède également plusieurs épices et techniques secrètes. Ce plat culinaire est préparé avec des épices spéciales que l'on ne trouve que dans la région de Sulawesi occidentale. Certaines de ces épices incluent le parmesan ou la mangue aigre. La parmesan est fabriquée à partir de certains types de jeunes mangues appelées Toisan Padre, Kaloli et Kami. La mangue est coupée en petits morceaux puis séchée. Cet ingrédient donne à l'odeur de pois un goût aigre unique, qui est différent du goût aigre des autres ingrédients. En plus de continuer à utiliser des épices typiques, le mandar maintient également le processus de cuisson traditionnel, à savoir l'utilisation de chaudrons en argile et de poêles à bois, censé ajouter aux délices du Bao Prapi. Chers amis, le Bao Prapi est généralement servi avec du riz blanc ou du jepa, un plat culinaire typique de Mandar à base de pâtes de manioc et de noix de coco râpées, transformées en fines feuilles rondes. Ce plat culinaire est souvent servi lors d'événements spéciaux tels que des mariages, des vacances ou dans le cadre de rituels religieux. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent profiter du Bao Prapi, ce délice culinaire peut facilement être trouvé dans divers restaurants de l'ouest de Sulawesi. Bonjour, c'est tout. le magazine culturel.
Auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée Réog Ponorogo est désigné patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, avec Maudry. Ce jeté Réog Ponorogo a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, WBTB, dans la catégorie besoin d'une sauvegarde urgente, qui a eu lieu lors de la 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'Assomption, Paraguay, le 3 décembre 2024. L'ambassadeur délégué permanent de la République d'Indonésie auprès de l'UNESCO, Mohamed Umar, a exprimé sa gratitude et son appréciation au comité WBTB de l'UNESCO et à toutes les parties qui ont contribué en train de reconnaître Réog Ponorogo comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce jeté, le Réog Ponorogo, est un art du spectacle qui combine la danse, la musique et le théâtre sur une magnifique scène. L'icône principale de ce spectacle est le Barong Ansingo Barong, un grand masque en forme de tête de lion orné de plumes de paon. Ces masques ne sont pas seulement une attraction visuelle, mais reflètent également la force, le courage et le leadership. Les performances de Réog sont généralement accompagnées de musique gamelan et impliquent divers personnages, tels que les porteurs de masques Warok, Djatil et Singo Barong. Chaque élément a une histoire et une signification philosophique, notamment liée aux valeurs de courage, de loyauté et de solidarité qui se sont transmises de génération en génération. Ce jeté, le ministre indonésien de la culture, Fadlizon, a souligné que l'inscription de Réog Ponorogo comme patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente par l'UNESCO est un moment important pour l'Indonésie dans la préservation des arts et de la culture traditionnelle fermement ancrée dans les valeurs locales et l'esprit de coopération mutuelle. Avec cette détermination, Réog Ponorogo devient officiellement le 14e patrimoine culturel immatériel WBTB d'Indonésie à être inscrit sur la liste WBTB de l'UNESCO. Auparavant, wayang, batik, keris, batik tulis, angklung, saman, danse, noken, les trois genres de danse traditionnelle balinaise, l'art de fabriquer des bateaux pinisi, pencaksilat, pantun, gamelan et la culture saine de la consommation de plantes médicinales avaient déjà reçu la reconnaissance de l'UNESCO. Bon, chargé de tard, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission des magazines musicales avec Maudry. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson pop régionale intitulée Loro Pikir de Java Occidental. Cher ami, Loro Pikir est une chanson javanaise écrite par Teddy Ut Anugrianto, un musicien talentueux de Bumi Blambangan, sorti pour la première fois grâce à la performance de Happy Asmara en 2020. Loro Pikir a grimpé encore plus loin après avoir été réarrangé par Bajol Danu et mis en ligne sur sa chaîne YouTube. La vidéo a désormais été visionnée plus de 23 millions de fois. Les paroles de Loro Pikir parlent de quelqu'un qui ne reste pas l'amour sincère de son amant. Son partenaire ne s'approche que lorsqu'il y a un besoin qui lui profite. Le chagrin continue de s'accumuler et devient suffocant dans la poitrine. Finalement, il a choisi de se séparer plutôt que de continuer à rester dans une relation pleine de déceptions. Bon, chers auditeurs, voici la chanson pop régionale de Java Occidental intitulée Loro Pikir, chantée par Bajol Danu et Fira et Nabila. Bonne écoute!
Siang make ninggal rasa nong jero dodo.
Ho, ah, ho, eh. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.